Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 16 mars 2016. Anne Alberson et John Lyndon dans votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Présidentielle américaine, Donald Trump et Hillary Clinton maintiennent leur avance. Un tournant décisif a été pris hier soir lors des primaires dans 5 États, dont la Floride et l'Ohio.
Hillary Clinton a battu Sanders et c'est l'écart qui est impressionnant. Elle a écrasé vraiment Sanders. Elle commence maintenant une campagne contre les républicains.
Au-delà des États-Unis, quel regard l'Afrique porte-t-elle sur ces élections et quel candidat pourrait être celui du continent?
Hillary bénéficie de l'avantage d'avoir été secrétaire d'État sous le président Obama. Trump ne connaît pas tellement l'Afrique et il n'est pas un politicien, il est un homme d'affaires.
L'armée américaine réduira-t-elle ses effectifs en Afghanistan? La question se pose toujours et pour l'instant, l'administration Obama n'est pas prête à décider.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Présidentielle américaine, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton ont tous deux remporté une victoire importante mardi lors des primaires en Floride, ce qui leur permet de consolider leur avance dans leurs camps respectifs. La victoire de Donald Trump en Floride a conduit Marco Rubio, le sénateur de cet État, à se retirer de la course à la Maison-Blanche. Toujours du côté républicain, John Kasich, gouverneur de l'Ohio, a remporté mardi les primaires présidentielles dans son État. Cette victoire dans l'Ohio, sa toute première, était crucial pour qu'il puisse rester dans la course. Les sénateurs Ted Cruz côté républicain et Bernie Sanders côté démocrate poursuivent aussi leur campagne. Pour analyser les résultats d'hier soir, nous avons joint le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Hillary Clinton a battu Sanders dans les 5 États et c'est l'écart qui est impressionnant. Elle a écrasé vraiment Sanders. Elle commence maintenant une campagne contre les républicains comme si elle a déjà gagné. Et je suis d'accord, elle a probablement gagné l'investiture.
Côté républicain, Donald Trump a gagné la Floride et le sénateur Marco Rubio vient de jeter l'éponge.
Il a perdu dans son propre État. Donc ça montre la force de Trump. Il a gagné aussi en Caroline du Nord. Donc c'est impressionnant pour lui aussi, sauf que le fait qu'il a perdu l'Ohio et laisse une ouverture, même si c'est une mince ouverture, pour la campagne pour les autres, à la fois Kasich et Cruz. Donc je ne dirais pas que la campagne républicaine est terminée, pas encore.
Alors envisageons un duel Hillary Clinton et Donald Trump, qui pour vous peut l'emporter et qui peut être le meilleur candidat pour l'Afrique?
Difficile à dire, mais c'est sûr que Hillary Clinton est le favori. Mais ce qui est difficile à dire, c'est que Trump est tellement imprévisible comme candidat qu'on ne peut pas dire le modèle. Est-ce qu'il va casser complètement le modèle? Parce que ce n'est pas un républicain normal, il n'est pas même républicain. Donc c'est difficile à prévoir toutes les possibilités. C'est vrai que Hillary Clinton reste le favori. En ce qui concerne l'Afrique, je ne sais pas si Trump a prononcé sur l'Afrique, sauf le fait qu'il n'aime pas le libre-échange. Donc c'est peut-être mal pour l'Afrique, mais reste à voir ce qui s'est directement en ce qui concerne l'Afrique. Hillary Clinton, alors vous savez un peu sa direction, parce qu'elle était secrétaire d'État, elle va continuer un peu dans ce domaine-là.
C'était le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
L'actualité en Afrique, l'opposant nigérien Abba Amadou, en prison depuis la mi-novembre, devait être évacué mardi soir en France. À bord d'un avion médicalisé, a annoncé le porte-parole du gouvernement et ministre de la Justice, Marou Amadou. Au cours d'une brève conférence de presse hier soir, le ministre de la Justice a annoncé qu'Abba Amadou, qui souffre d'asthénie, fatigue générale donc, serait d'abord héliporté sur Niamey avant son départ pour la France. On écoute le ministre Marou Amadou.
Son médecin s'est répandu dans les médias en racontant tout ce que vous avez entendu. Et d'ailleurs, il est poursuivi pour propagation de fausses nouvelles. Nous avons dû mobiliser une équipe de spécialistes qui a quitté Niamey vers 19h et qui était arrivée à Filingué vers minuit. qui ont fait les consultations nécessaires et qui ont rendu à son Excellence Monsieur le Premier ministre leur rapport à 13h aujourd'hui. Le rapport conclut qu'il faut évidemment, pour une maladie chronique, comme l'a dit son médecin dont souffrait M. Mahamadou depuis 3 ans, qu'il faut l'évacuer dans un centre spécialisé. À Niamey, donc, il n'y a pas ce centre spécialisé. Le président de la République a instruit pour faire venir un avion médicalisé qui va le transporter vers les lieux de ses soins, en soulignant qu'une fois encore, nous devons chercher un hélicoptère, pas celui dans lequel il n'a pas voulu grimper, mais qui doit, dès que nous l'obtiendrons incessamment, aller à Filengué, rechercher M. Mahamadou et l'évacuer dans un centre qui pourra le prendre en charge.
Marou Amadou, ministre de la Justice du Niger, propos recueillis par Bagassi Koura, envoyé spécial de VO Afrique à Niamey.
Le gouvernement marocain va procéder à une réduction significative dans les jours qui viennent d'une grande partie de la composante civile et plus particulièrement le segment politique de la MINURSO, la mission de l'ONU au Sahara occidental, a déclaré mardi soir le ministre marocain des Affaires étrangères dans un communiqué. Une nouvelle escalade dans un dossier qui empoisonne les relations entre Rabat et les Nations Unies. Le Sahara occidental est une ex-colonie espagnole contrôlée par le Maroc qu'il a annexée en 1975 mais revendiquée par des indépendants du Polisario. Le Rabat propose une large autonomie sous sa souveraineté pour ce vaste territoire de moins d'un million d'habitants et a reçu mardi le soutien de Moscou, tandis que le Polisario, soutenu par Alger, réclame un référendum d'autodétermination.
En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé en grande partie les résultats des législatives, mais encore une fois, la Cour a invalidé une partie de ces élections pour cause de fraude dans 10 circonscriptions.
En République démocratique du Congo, une dizaine de militants du mouvement Lutte pour le changement ont été arrêtés à Goma hier lors d'une marche pacifique alors qu'ils demandaient la libération de leurs camarades arrêtés depuis exactement une année à Kinshasa lors d'un atelier sur la démocratie. La manifestation a été dispersée par la police. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
Au Burundi, 5 pays membres de l'Union européenne accrédités à Bujumbura sont revenus mardi sur la clôture des consultations au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Ils estiment que les engagements présentés par le gouvernement burundais sont insuffisants. L'Union européenne a suspendu ses appuis financiers à l'administration burundaise, mais a maintenu son soutien financier à la population et son aide humanitaire.
Au Cameroun, Rose Taqué est libre. Ses avocats l'ont annoncé ce mardi au terme de leur rencontre avec le procureur de la République au siège du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. La femme qui a ouvert le ventre de Monique Koumateke samedi dernier à l'hôpital La Quintini de Douala pour en extraire des fœtus. Le morguier Luc Monga, une infirmière et l'infirmier-major, tous en service à l'hôpital La Quintini de Douala, ont été remis en liberté après avoir présenté des garants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conformément à l'annonce de Vladimir Poutine, les premiers bombardiers et avions de transport russes ont quitté la Syrie et ont été accueillis par des vivas en Russie, où le secrétaire d'État américain John Kerry se rendra dans une semaine pour y rencontrer le président russe. De son côté, Washington a estimé que Moscou tenait à ce stade sa promesse de retirer le gros de son contingent militaire de Syrie. En dépit de ce retrait, Moscou poursuivra ses frappes contre des objectifs terroristes, a toutefois prévenu l'armée russe. Son aviation a ainsi frappé mardi Palmyre, détenue par le groupe État islamique, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, le front Al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, promet une offensive dans les 48 heures et parle d'une défaite russe.
L'administration Obama n'est pas encore prête à décider d'éventuelles modifications du dispositif militaire américain en Afghanistan face à la poussée des talibans. Le secrétaire à la défense Ashton Carter veut laisser le temps au nouveau commandant des forces américaines sur place, le général John Nicholson, de faire un diagnostic et des propositions, a expliqué mardi le porte-parole du Pentagone, Peter Cook. Les effectifs de l'armée américaine en Afghanistan doivent en principe descendre à 5500 hommes à partir de janvier 2017 contre 9800 actuellement. Mais les revers subis par les forces afghanes face aux talibans en 2015 inquiètent les responsables militaires américains.
Une délégation du Hamas a rencontré au Caire les responsables du renseignement égyptien pour tenter d'apaiser les relations actuellement tendues entre les deux parties, a déclaré mardi un dirigeant du mouvement islamiste palestinien sans toutefois annoncer une quelconque avancée. Les représentants du Hamas ont plaidé pour un desserrement de l'étau autour de la bande de Gaza, petite enclave déjà sous le coup d'un sévère blocus israélien depuis 10 ans, a dit Khalil Al-Aya. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco tout de suite avec Claire Morin-Gibourg.
La lutte contre la corruption et l'évasion des capitaux continue au Nigeria. Selon un rapport du gouvernement, la NNPC, la Compagnie nationale de pétrole nigériane, n'a pas versé 16,2 milliards de dollars provenant de la vente de brut à la Banque centrale en 2014. Toujours selon ce rapport, les recettes de vente de gaz, soit 235 millions de dollars tout de même, n'ont pas non plus été réglées au gouvernement, mais transférées sur des comptes séquestres non identifiés. Tension entre le Maroc et l'Union européenne, le roi Mohamed VI a indiqué compter sur une décision en sa faveur le plus rapidement possible dans le bras de fer qu'il oppose à l'Union européenne depuis l'annulation d'un accord agricole par la justice européenne, car s'appliquant au Sahara occidental. Le Maroc avait annoncé le 25 février la suspension de tout contact avec l'UE pour protester contre cette décision de la justice européenne invalidant un accord de libéralisation réciproque en matière de produits agricoles et de la pêche, au motif qu'il s'appliquait aussi au Sahara occidental, région à la souveraineté contestée. Il y a peut-être plus de pétrole que prévu au large du Sénégal. Le groupe britannique Cain Energy a augmenté de près de 20% son estimation des ressources récupérables sur le champ pétrolier SNE, situé à une centaine de kilomètres des côtes du Sénégal.
C'était la Minute Éco. Merci Claire. Et nous voici en sport, nous accueillons Nicolas Pineau qui est de retour. Bonjour Nicolas.
Bonjour John.
On commence par le football, la RDC jette l'éponge pour les cannes des cadets et des juniors.
La Fédération congolaise de football a annoncé à la CAF qu'elle retirait ses sélections des moins de 17 ans et des moins de 20 ans des éliminatoires des Coupes d'Afrique de la catégorie. En conséquence, dans les éliminatoires de la CAN des juniors, pour la Zambie 2017, le Burundi qui devait affronter la RDC est qualifié pour le second tour. Tandis que pour la CAN des cadets, Madagascar 2017, c'est le Tchad qui se qualifie pour le deuxième tour des éliminatoires suite au retrait de la RDC.
Emmanuel Adebayor refuse toujours de rejouer pour le Togo.
L'attaquant de Crystal Palace préfère se consacrer à son club et n'affrontera donc pas la Tunisie le 25 mars à Monastir. Pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, l'ex-capitaine des Éperviers sans club depuis la fin de son contrat avec Tottenham en septembre s'est engagé en janvier avec Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison. Emmanuel Adebayor a plusieurs fois tourné le dos à l'équipe nationale en dénonçant, je cite, la pagaille au sein de la fédération togolaise. Sa dernière sélection en équipe nationale remonte à juin dernier contre le Liberia à Lomé où il avait rejoint ses coéquipiers après avoir boudé plusieurs matchs. Allez John, on va parler de la Ligue des champions en Europe, la suite des huitièmes de finale.
Oui, Nicolas, Manchester City s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des champions 0-0 face au Dynamo de Kiev. Au match aller, City avait battu Dynamo 3-1. Mais les Anglais ont vu sortir sur blessure leurs deux centraux, Kompany et Otamendi. Et nous dit l'équipe, l'Atlético de Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions en battant le PSV Eindhoven au tir au but 8-7 après une double confrontation où aucun but n'a été marqué en 210 minutes de jeu. Une première dans l'histoire de la Ligue des champions. Maintenant, à suivre ce mercredi, Nicolas.
Le choc à l'Allianz Arena de Munich, le Bayern face à la Juventus de Turin, de partout à l'aller entre les deux équipes. Et puis au Camp Nou, le Barça serein après son succès 2-0 à Londres contre Arsenal. Malgré la victoire de son équipe à l'aller, Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, refuse de s'enflammer avant ce huitième de finale retour. Enfin, avec vous la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Nicolas, Indiana bat Boston 103-98. Orlando s'impose devant Denver 116-110. Brooklyn écrase Philadelphie 131-114. Et puis Milwaukee s'incline devant Toronto 89-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Linden, en votre compagnie, place au dossier du jour et on commence par les États-Unis. Ils sont nombreux en Afrique à suivre la campagne présidentielle américaine. D'une manière ou d'une autre, celui qui prendra les rênes du pouvoir aux États-Unis aura sans doute un œil sur la marche de l'Afrique. Nous avons voulu avoir un regard africain sur ces primaires. Fidèle Lumeya est directeur exécutif du Conseil congolais américain pour la paix et la justice, une organisation basée ici aux États-Unis. Il s'exprime tout d'abord sur ce qu'on peut retenir des résultats des primaires d'hier soir.
Deux choses. La première est qu'il n'y a pas eu trop de changements depuis le début. C'est Trump qui mène du côté des républicains et du côté des démocrates, Hillary est en train de mener. Donc les deux sont toujours en avance en termes de nombre de candidats et des États qu'ils gagnent.
Si on envisageait un duel Hillary Clinton-Donald Trump, qui pensez-vous être celui qui peut l'emporter? Et concernant l'Afrique, qui peut être le bon candidat pour l'Afrique?
Je commence par la dernière partie. Hillary bénéficie de l'avantage d'avoir été secrétaire d'État sous le président Obama. Et ils sont venus avec la politique de détente, la politique de la diplomatie, pas de guerre. Et l'Afrique en a déjà marre avec les guerres. La secrétaire d'État Clinton a plus valorisé nos valeurs africaines de parler, de dialoguer. Donc Hillary connaît bien l'Afrique. Elle a sillonné l'Afrique, elle a parlé avec la société civile. Elle connaît les problèmes africains. Et elle croit qu'elle sera un bon candidat pour l'Afrique que Trump.
Et s'agissant maintenant de la politique de Trump vis-à-vis de l'Afrique, si jamais il était élu, c'est mal parti pour l'Afrique?
Trump ne connaît pas tellement l'Afrique et il n'est pas un politicien. Il est un homme d'affaires qui corrompt les politiciens. Et ça, c'est ce qu'il avait dit, qu'il connaissait les politiciens parce qu'il leur donnait son argent pour les campagnes, mais aussi le maintenir dans sa poche. Il les influençait. Et quand vous écoutez, il n'a rien de substantiel que quelqu'un peut s'y mettre pour dire non, je vois une vision là-dedans. Tout ce qu'il fait, c'est énumérer des principes sans toutefois vous donner les détails. Et ça, ça sera sa difficulté pendant les élections quand il va faire face à Hillary qui connaît le monde, mais qui peut articuler des doctrines philosophiques, mais des doctrines politiques. Trump n'est pas ça. Déjà, on a vu lors des primaires, il avait des difficultés avec les détails.
Fidèle Lumeya, directeur exécutif du Conseil congolais américain pour la paix et la justice.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur l'attaque terroriste de Grand Bassam, inédite en Côte d'Ivoire. ACMI revendique la tuerie qui s'ajoute à celle de Bamako et Ouagadougou. En moins de 4 mois, l'Afrique de l'Ouest voit rouge. Faut-il élargir le G5 dans la lutte antiterroriste? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Direction la République démocratique du Congo, où une dizaine de militants du mouvement Lutte pour le changement ont été arrêtés hier en début d'après-midi à Goma lors d'une marche pacifique. Ils demandaient la libération, cette fois, de leurs camarades arrêtés depuis exactement une année à Kinshasa lors d'un atelier sur la démocratie. La manifestation a été dispersée par la police. Retrouvons pour en parler Charlie Kazereka depuis Goma.
C'est en mémoire de l'arrestation de leurs camarades depuis plus de 12 mois maintenant à Kinshasa qu'ils ont voulu organiser une messe suivie d'un sit-in ici à Goma. Ils étaient une dizaine, leurs bouches bandées et leurs mains liées en signe de solidarité avec ses compagnons incarcérés à Kinshasa. À peine 20 minutes du début de la marche, alors qu'ils se dirigeaient dans une église de la place, ils ont été interpellés sans résistance et par un dispositif de la police qui a été déployé depuis tôt ce matin sur toutes les grandes artères de la ville de Goma. Trésor Akili est aussi membre membre du mouvement Lucha. Lui et certains d'autres camarades ont réussi à s'échapper. Il témoigne ici.
On demandait la libération de Fred. C'est la journée mondiale contre les violences policières. Mais malheureusement, la Lucha et les militants de la Lucha viennent de subir cette violence policière. Cet agissement de l'autorité ne nous fait pas de frustration. Au contraire, ça prouve suffisamment que nous devons nous battre pour cette liberté. Et si nous croisons les bras, il arrivera un moment, on ne parlera plus dans ce pays.
À ces jours, ils sont plus d'une dizaine incarcérés dans différentes prisons de la RDC, à Goma comme à Kinshasa. Certains membres de la Lucha, d'UDAER, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a, dans un communiqué publié ce mardi matin, demandé aux autorités congolaises de libérer les deux militants pro-démocratie arrêtés depuis plus de 12 mois maintenant à Kinshasa. Ida Sayuer est chercheuse et senior à Human Rights Watch, ici à Goma.
Donc nous avons pris l'opportunité de cet anniversaire pour mettre une pression aux autorités congolaises. Et un parmi ces deux détenus à Kinshasa, Fred Bauma, est membre de Lucha et originaire de Goma ici. Et quand ce matin, avant que la marche avait commencé, la police était bien déployée en centre-ville de Goma, là où ils avaient planifié d'organiser leur marche et un sit-in. Et jusqu'à là, on a des informations d'au moins 6 activistes qui étaient arrêtés par la police ici à Goma. Mais peut-être autres aussi, nous sommes en train de confirmer les informations.
Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Grogne des étudiants tchadiens au pays et à l'étranger, ceux de la Faculté des sciences et de la santé humaine de N'Djamena ont dénoncé hier les retards dans l'organisation des soutenances de leurs camarades en instance de thèse pour l'année académique 2014-2015. Ils menacent de suspendre leurs activités académiques et hospitalières dans un délai de 72 heures. Pendant ce temps, à Ouagadougou, au Burkina, plus de 300 étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement ont été exclus des cours, le Tchad n'ayant pas payé leurs études. Faute de bourse, certains campent dans les locaux de l'ambassade du Tchad à Ouagadougou. Timothée Donangmaï a joint leur porte-parole, Charles Dago.
Ça fait exactement 2 ans et 7 mois que l'État n'a pas régularisé nos frais de scolarité et non plus nos bourses de subsistance. 2 ans et 7 mois que nous sommes sur le territoire burkinabé. Les 7 mois que nous avions passés, nous les avions passés dans les chambres en campus parce que l'école a sorti une note circulaire pour nous suspendre les cours. Et une fois que ces notes-là sont sorties, on a entrepris des démarches auprès de nos autorités. On a fait parvenir à l'ambassade nos revendications, croyant que celles-ci allaient faire porter haute notre voix, mais ces déclarations ont été sans effet par rapport à nos états. Et nos autorités sont arrivées aussi au Burkina le 29 décembre à l'investiture du président du Burkina en la personne du ministre des Affaires étrangères. On lui a remis en main propre notre plateforme et il nous a confirmé qu'il devait rendre cette plateforme-là à notre président. Et notre président est revenu ici au Burkina encore lors des événements qu'avait connu le Burkina et notre ambassadeur a réitéré cette phrase-là encore pour nous dire que notre président a pris acte de notre situation. Et au jour où on vous parle, rien n'a été fait. Ce qui nous a amené à venir à l'ambassade, c'est que le 5 mars dernier, l'école a sorti une note de service pour exclure tous les étudiants qui avaient résidents sur le campus. Et comme on est sans abri, et ceux qui logent au quartier aussi ont des impayés de loyer, et on s'endette pour vivre, on s'est réunis, on a écrit une lettre d'avertissement aux autorités compétentes qui est restée sans suite, on a organiser une conférence de presse dans laquelle on a dit qu'on allait occuper les locaux de notre ambassade à Ouagadougou. Tout ceci dans le but de dire à nos intérêts ce que nous voudrions faire dans la mesure où ils peuvent peut-être nous proposer des solutions de sortie.
Faute de solution, vous occupez actuellement les locaux de l'ambassade du Tchad à Ouagadougou. Comment ça se passe là-bas?
Quand on était arrivé hier matin, la sécurité n'était pas totalement en place. Ça fait qu'une partie de nous avait réussi à rentrer dans les locaux de l'ambassade. Par contre, les autres sont restés à l'extérieur de l'ambassade. Nous qui étions à l'extérieur, on a essayé de préparer quelque chose au courant de la journée pour envoyer à nos camarades à l'intérieur de l'ambassade. Mais la gendarmerie burkinabé qui est devant les locaux de l'ambassade nous ont interdit d'envoyer cette nourriture là-dedans. Et l'eau, on n'a pas pu aussi envoyer de l'eau à nos camarades qui étaient dedans. Ce midi-là aussi, la même chose s'est répétée.
Alors, qu'allez-vous faire?
On se pose la question sur ce que quel est le rôle que joue la gendarmerie burkinabé
actuellement au niveau de l'ambassade du Tchad. Pour nous, on pensait que la gendarmerie burkinabé assure ici la sécurité de l'ambassade parce que c'est le Burkina qui les a envoyés. Et ils n'ont pas à recevoir des ordres de nos autorités qui leur disent de nous empêcher de faire entrer de la nourriture ou de l'eau à nos camarades. Parce que ce sont nos autorités qui les ont demandé de nous refuser ces accès-là. Et alors on se pose la question de savoir de qui est-ce que ces gendarmes reçoivent-ils leurs ordres.
Charles Dagou, porte-parole des étudiants tchadiens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Les crimes de guerre se poursuivent sans relâche au Soudan du Sud. Meurtres, viols systématiques et disparitions forcées sont le lot quotidien, comme l'ont fait ressortir de récents rapports de l'ONU, d'Amnesty International et de bien d'autres organisations. Pour certains groupes de défense des droits de l'homme, des sanctions et d'autres mesures ciblées pourraient avoir un impact là où un accord de paix a échoué. Des précisions avec Jacques Aristide.
Décembre 2013, la date qui marque la descente aux enfers pour le Soudan du Sud. Des combats éclatent, c'est l'escalade. L'ONU parle de violences graves et systématiques à l'égard des civils. En octobre dernier, dans l'état d'unité, plus de 60 hommes et garçons sont découverts morts asphyxiés. Amnesty International accuse les forces gouvernementales. Durant le même mois, Human Rights Watch révèle preuve à l'appui des abus graves perpétrés dans la région de Western Equatoria. Ian Schwab est directeur des communications à l'ONG américaine Enough Project, un groupe de plaidoyer pour l'Afrique basé à Washington.
What we see is...
Nous assistons à des violations flagrantes de droits de l'homme, au pillage de caisses de l'État et de ressources naturelles. Tout cela dans un climat d'impunité et d'absence totale de poursuite pour ces crimes horribles en cours.
Pas beaucoup d'espoir en vue, d'autant que les signataires de l'accord de paix, paraphé en août 2015, ne sont pas prêts de former un gouvernement d'unité nationale, initialement prévu pour novembre, ne serait-ce que pour une période transitoire. L'une des pierres d'achoppement, la démilitarisation de Djouba, sujet qui continue de diviser le président Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar. Pendant ce temps, le pays est en proie à la violence, de même qu'à une grave crise humanitaire. Avec plus de 2 millions de personnes déplacées, alors que la famine se profile à l'horizon, d'après l'ONU, le groupe Enough Project recommande des sanctions ciblées.
Well, we think the best places to start are to designate higher level officials.
Eh bien, nous pensons qu'il faudra commencer par les responsables de haut niveau impliqués dans ces crimes. Il faut veiller à ce que les sanctions soient appliquées. Nous ne parlons pas des sanctions générales qui pourraient avoir un impact sur le pays. Nous ciblons ces individus complices et responsables de ces crimes et du pillage des ressources de l'État.
De son côté, Human Rights Watch appelle l'ONU à imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud. Jehan Henry, chercheuse principale sur l'Afrique à l'ONG.
Nous pensons que l'embargo sur les armes aurait dû être appliqué depuis longtemps. Le conflit a commencé en décembre 2013 et les pires combats se sont déroulés durant les semaines et les mois qui ont suivi. L'embargo était approprié au début, lorsqu'il était clair que la guerre ne se faisait pas entre soldats, mais entre les civils plutôt.
Des pays comme la Grande-Bretagne et la France soutiennent cette idée. Pour les États-Unis toutefois, un embargo sur les armes pourrait avantager les forces rebelles, avis que partagent la Russie, la Chine et l'Angola. D'autre part, Human Rights Watch demande à l'Union africaine de mettre en place un tribunal hybride pour le Soudan du Sud.
Cela enverra un message clair et net à l'effet que les gens seront tenus responsables pour les abus qui sont commis.
Pour des observateurs qui mettent en doute le bien fondé de l'accord de paix, vieux de 7 mois maintenant, il est grand temps pour la communauté internationale de prendre de nouvelles mesures afin de mettre un terme au drame qui se joue au Soudan du Sud.
C'était...
c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Anne Alberson, à la console Jimmy Cook, présentation Anne Alberson et John Lyndon. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.